Les pluies torrentielles de la nuit dernière semblent s'éloigner de la région, comme on peut le voir sur ces photos satellites du Delaware. Un vent de sud-ouest chasse les nuages et le soleil ne devrait pas tarder à faire sa réapparition.
Mayhew, Delaware. Il est 10 heures passées au diner ouvert non-stop.
The Sandman. 24 heures.
Première heure. Les mouches entrent dans la toile.
Betty, un autre café et un toast avec thon et maillot, s'il te plaît.
Bien sûr, ma chérie. Je t'apporte ça.
La serveuse, c'est Betty Monroe. Jeune quadragénaire, cheveux blonds, grisonnants, léger surpoids. Pendant ses jours de repos, après avoir fait son ménage, Betty écrit des histoires. Elle les écrit à la main sur des blocs-notes jaunes. Elle y évoque parfois son ex-mari, Bernard, et leur fils, Bernard Junior, qui est parti à l'université et n'est plus jamais revenu la voir. Elle donne à ses histoires une fin heureuse. Mais la plupart d'entre elles parlent de ses clients. Eux ne voient en elle qu'une simple serveuse et ne se doutent pas qu'elle cache un secret. Un secret qui l'aide à tenir, malgré ses mollets douloureux, ses doigts brûlés par le café et son épuisement. C'est son secret. Elle n'a jamais fait lire ses histoires à personne. Elle sait qu'un jour, elle rassemblera tous ses blocs-notes dans un colis et les enverra à un journal ou à Jackie Collins.
Un toast ton maillot et un café.
Merci.
Ils les liront, les publieront et tous s'émerveilleront de ces croquis sur le vif de la vie heureuse des petites villes. Mais vous êtes écrivaine, lui dira Johnny Carson dans son talk show. Comment pouvez-vous connaître le quotidien d'une serveuse? Elle sourira, elle ne lui dira pas. Ce sera son secret. Les gens pensent que Betty les écoute volontiers, car elle est serveuse. Ils ne réalisent pas qu'elle se documente en tant qu'écrivaine.
Betty, je vais aux toilettes. Si Donna passe, tu peux lui demander de m'attendre, s'il te plaît.
Bien sûr, Judy.
Judy Talbot, 19 ans, peut-être 20. Métisse, porte un perfecto en cuir couvert de badges politiques. Plaît beaucoup aux garçons, mais préfère les filles.
Madame, excusez-moi, madame, pourrais-je vous demander un autre café?
Sans problème, jeune homme. Ah, il n'est pas encore 11 heures. Il te reste encore une heure à tuer.
Ouais, c'est vrai.
Ce jeune homme qui lit le journal, Mark Brewer, il s'était adressé à elle aussi facilement qu'à une vraie serveuse. Dites-leur que vous êtes écrivaine et ils se ferment aussitôt comme des huîtres. Mark a la vingtaine. Il est blond, propre sur lui et sympathique. Il porte un costume car il a un entretien en vue d'un emploi dans une grande usine de produits chimiques. Peut-être que ce soir, Betty écrira une histoire sur lui. Il sera embauché. Il épousera la fille du patron.
Je lui dis que c'est des meringues et des lames de rasoir et elle me dit...
Monsieur et Madame Fletcher, bienvenue. Installez-vous.
Un cheeseburger et un café noir, s'il te plaît, Betty. Et toi, Kate?
Une salade avec sauce allégée. Oh, et un déca au lait écrémé, si c'est possible.
Je vais aller voir.
Oh, et ce couple, les Fletcher. Gary est un grand gaillard en léger surpoids. Il fait du karaté et collectionne les armes anciennes. Kate vient d'une famille aisée. Elle est vive et intelligente. Elle est petite et plus attirante que jolie. On dit en ville que Gary l'a épousée pour son argent, mais Betty voit bien qu'ils s'adorent. Deux tourtereaux. Éloignez-en un, l'autre meurt de chagrin. Toutes les histoires de Betty finissent bien, parce qu'elle sait s'arrêter où il faut. Elle a compris que le problème avec les histoires, c'est que si on les emmène trop loin, elles finissent toujours par la mort.
Salut Betty, quand tu veux.
J'arrive tout de suite, Marsh.
D'accord.
Janowski, Marsh de son prénom, s'assoit sur un tabouret au comptoir et allume une cigarette. Il est mince et porte une salopette sale. Peut-être n'a-t-il pas beaucoup appris de ses 5 années passées à la laverie de la prison. Il n'est pas très futé.
Et voilà, Gary, Kate. Ah,
merci, Betty.
Ça a l'air délicieux.
Je te resserre.
Betty connaît déjà l'histoire de Judy. Elle est amoureuse de son amie Donna, qui se fait parfois appeler Bella Donne. Mais elle remarque son bleu au visage. Leur relation n'est pas au beau fixe. Betty ne juge personne. une écrivaine ne peut se le permettre. Elle commet un affront à Dieu et c'est contre nature. Mais pourtant, Betty a de la peine pour elle. Dans ses histoires, elle les a déjà toutes les deux mariées à de beaux jeunes hommes. Comme celui-ci, là-bas.
Voilà pour toi, Marsh.
Il est très bon, merci.
Betty veille un peu sur Marsh depuis la mort de Marsha. Marsh et Marsha. Ils étaient forcément faits l'un pour l'autre, chuchote l'écrivaine qui est en elle. Mais l'alcoolisme a tué Marsha. Elle est morte en sanatorium, toute jaune, voix éteinte. Puis Marsh a un peu perdu la tête. L'honnête facteur a mal tourné. Prison ferme, pour vol de courrier. 5 ans. Aujourd'hui routier, il travaille dans une ville du Nord où personne ne le connaît. Mais il passe la voir de temps en temps. En souvenir du passé.
Tu finis quand, poupée ?
Tu le sais bien, Marsh. Après le déjeuner.
Tac. Je t'attends.
Ce ne sont pas de simples clients. Pas seulement pour Betty, d'ailleurs. Au fond, dans un coin de la salle, est assis John Dee, jadis autoproclamé « Docteur Destin ». Sa peau est fine et tout est tiré sur son crâne. On dirait une momie. Il ne lui reste que quelques mèches de cheveux. Il lui manque des dents et ses yeux énormes, comme deux globes sans paupières, sont profondément enfoncés dans leurs orbites. Il est petit, presque nu, si ce n'est son long manteau taillé en cuir de mouton d'une taille beaucoup trop grande pour lui. La première heure, il s'est contenté d'observer. Le feu glacé au cœur du rubis lui murmure, comme au reste du monde, les chants de la folie et du désespoir. Et pendant qu'il murmurait, les insectes sont arrivés lentement, peu à peu, jusque dans sa toile. Ce ne sont pas de simples clients, c'est de la matière première.
Je vous resserre du café ?
Il m'en reste encore. Merci.
Il est là depuis le début du service de Betty ce matin, à siroter café sur café sans vraiment les boire, à les regarder refroidir, simplement. Ailleurs, dans son propre monde des rêves, observant les objets qui lui font face sur sa table, elle se pose des questions sur lui. Sur lui et sur sa pierre rouge. Et sur cet autre truc, le truc en forme d'œil. Est-ce un bijou ? Elle ira lui parler quand ce sera plus calme, pour en savoir plus. Puis ce soir, quand Marsh sera remonté dans son camion et aura repris la route vers le nord, elle écrira une histoire à son sujet. Et dans son histoire, elle le rendra heureux. Deuxième heure. Il doit intervenir pour empêcher les mouches de partir. Maintenant qu'il a récupéré le rubis, c'est devenu chose facile.
Oh, j'y crois pas! Je vais être en retard à mon entretien! Oh mon Dieu! Oh non, 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 non! Excusez-moi, je laisse 5 dollars sur la table, ça devrait suffire. Oh, je suis désolé, je... Oh mince, si je cours, je serai peut-être à l'heure.
Marc, le jeune homme qui doit se rendre à son entretien, hésite. Derrière lui, resté discret dans le coin, le visage du docteur Dee est baigné d'une couleur rouge. Ses grands yeux ronds observent le jeune homme. Marc s'arrête. Il a un trou de mémoire.
Oh, purée. Oh, mince. Oh. Oh. Je... Madame, un autre café, si ça vous dérange pas.
Bien sûr. Voilà.
Troisième heure. Feuilleton de l'après-midi.
Excusez-moi, j'aimerais beaucoup regarder la télévision. Vous voulez bien ?
Que j'allume la télé ? Pas de problème.
Donna n'est toujours pas arrivée. Judy est au téléphone installée près des toilettes. Elle s'inquiète.
Allô ? Madame Walker ? D'accord, Miranda. Puis-je parler à Rose ? Merci. Rose, c'est Judy. Dis-moi, t'as vu Donna aujourd'hui ? Ben, on s'est disputé hier soir et je suis un peu inquiète. Elle répond plus au téléphone et... Rompue ? Non, on n'en est pas là, c'est que... Sa mère ? Tu penses qu'elle est retournée chez sa mère ? Merde.
Alfred Hitchcock présente un nouveau conte étrange à tous nos spectateurs de temple.
Allô ? Madame Cavana ? C'est Judy, l'amie de Donna. Vous avez vu Donna aujourd'hui ? Je vous demande pas de m'apprécier, Madame Cavana. Je voulais seulement... Madame Cavana ? Allô ? Vieille peau racornie. Désolée. Je voudrais mourir. Bon sang.
Quatrième heure. Il regarde la télévision. Des marionnettes.
Regardez, c'est Dino le dinosaure. Écoutez, Dino essaie de me dire quelque chose. Quoi, Dino ?
Le docteur D n'a jamais essayé d'employer le pouvoir du rubis sur l'esprit de quelqu'un à une telle distance.
Et tu as autre chose à me dire, pas vrai, Dino ? Nous allons tous mourir. Dino dit que nous allons tous mourir. Dino me l'a dit. Il dit qu'on devrait s'ouvrir les veines maintenant. Et je crois que Tonton Bill doit avoir son canif quelque part. Ça, le voilà.
Nous nous excusons de cette interruption de la maison d'oncle Bill. Pour des raisons techniques, merci de patienter.
Cinquième heure, les mouches s'agitent.
Gary !
Je te dis que c'est bizarre. Personne n'entre et on dirait qu'on est là depuis des heures. Mais j'ai l'impression qu'on vient juste d'arriver. C'est vraiment très... J'adore être ici.
Moi aussi. Tu sais, j'ai fait des rêves horribles ce matin. Horribles.
Quelques nouvelles de la santé de Oncle Bill. L'animateur qui apparaît aux côtés de Dino le dinosaure est dans un état stable. Revenons maintenant au début de ton cours.
Sixième heure. Judy écrit une lettre sur le bloc-notes tiré de son sac. C'est son quatrième essai.
Chère Donna, je ne t'en veux pas pour ce que tu as dit sur nous hier soir. Et j'ai dit que j'étais désolée après t'avoir frappée. Et je le suis. Oh, bordel.
Je te dis que c'est bizarre. Personne n'entre et on dirait qu'on est là depuis...
Donna, je t'aime. Si je t'ai frappée, c'est parce que j'avais peur de te perdre. Je suis désolée.
Avec le directeur exécutif.
Septième heure. Il les rend heureux. Ils réalisent tous leurs rêves. Il leur donne ce qu'ils veulent.
Steve ? Ouais, ça va. Je sais, il y a 3 ans, j'étais bloqué dans un diner à attendre un entretien pour travailler au courrier. Pas trop mal comme carrière depuis, hein ? Donc, Next, c'est une plateforme intéressante.
Marc dirige une start-up d'électronique en plein essor.
Bon, que tes gens voient ça avec les miens. L'argent...
Dans ses rêves.
Oh ouais...
Et Gary se paie une prostituée à $20 dans la décapotable que Kate lui a offerte. Puis il la battra, la jettera hors de la voiture et repartira. Il y prend tellement de plaisir.
Vas-y, salope.
Kate, elle, ne l'entend pas. Kate est à la morgue, aux pompes funèbres. Elle tient un plateau d'acier inoxydable sur lequel est posée la tête de Gary. Elle n'aura plus jamais besoin de s'inquiéter de ses petites infidélités.
C'est mieux comme ça.
Plus de rouge à lèvres sur son col. Il est tout à elle. Elle glisse la langue dans sa bouche béante. Huitième heure. John Dee se déplace parmi eux et savoure leur menu plaisir, leur petite joie.
Signale à Bill et Steve Ballmer que je vais devoir décaler la réunion.
Pathétique.
J'embrasse tes lèvres mortes et grises.
Ah ouais.
Sale putain de balle. T'as du bol que je t'étrangle pas avec cette...
Ah ouais.
La pierre des rêves lui parle de souffrances étrangères et de folies lointaines, de morts distantes et de terreurs reculées. Cela le rassure. Il ressent l'écho de leurs rêves. Betty a délogé Stephen King des listes des meilleures ventes.
Vraiment, Oprah ? J'ai toujours rêvé d'y arriver un jour, mais...
Ça ne lui fait pas grand-chose.
Triste.
Les petits plaisirs ne l'amusent plus.
Oh chérie, je suis tellement désolée. Oh, continue.
Oh.
La réunion douce amère entre Judy et Donna le stimule déjà un tout petit peu plus.
Mon Dieu, alors je suis bon qu'à ça?
Marsh se croit mort. Tué net par l'alcoolisme, raide sur une paillasse. Son foie a lâché, sa peau se refroidit peu à peu.
Délicieux.
John Dee en éprouve presque du plaisir. Presque autant de plaisir qu'en regardant son précieux Ruby agir, pas seulement ici, au diner, mais sur le monde entier, complètement déchaîné.
Le journal de 6 heures. Le monde devient-il fou? Les témoins de tout le pays font état d'une vague de folie, de suicide et de cauchemars.
Le docteur Dee ressent du plaisir. 9e heure.
Sale pute de Gwyn!
C'est le conflit, a-t-il décidé, qui révèle la vraie nature.
Marche, chérie, je t'en prie, calme-toi.
Sale Gwyn! Tiens!
Je t'en prie, c'est qu'une gamine.
Connard! Je vais te tuer! Lâche-moi! Oh, je vais te tuer!
Tout ce dont t'as besoin, c'est un bon mec! Un vrai mec! Je vais te montrer, salope! Je vais te faire voir!
Nous
10e heure, il l'adore. Libéré de son manteau et nu à présent, il fait le tour du diner, juché sur leurs épaules.
Tu es si beau.
Marc prend l'un des couteaux à découper de Betty pour s'amputer d'un doigt.
Je suis magnifique.
Docteur Dee, Docteur Dee, grand et sage et magnifique Dee.
Docteur Dee, Docteur Dee, grand et sage et magnifique.
Je suis votre Dieu.
Marc fait offrande de son petit doigt gauche sectionné. Le docteur Dee lèche le sang qui en coule. Un dieu ne doit pas se montrer désobligeant face à un sacrifice. Cependant, il n'en tire aucune satisfaction. Il ne sait pas ce qu'il veut manger. Il doit y avoir quelque chose.
Docteur Dee, grand et sage et magnifique je suis!
11e heure. Il se tient à jour des nouvelles.
Les cauchemars, les insomnies et la démence déjà signalés aux actualités locales s'amplifie pour devenir un phénomène mondial. Des témoignages arrivent déjà d'Asie et d'Europe d'accidents et de catastrophes causées par des endormissements sur les autoroutes. L'avion qui s'écrase. L'erreur chirurgicale. Retrouvons Marie Janssen,
Marie. Des personnalités intégristes commencent à proclamer l'apocalypse. Dans le monde entier, les gens ne trouvent plus le sommeil ou font des cauchemars. Et tous ceux qui présentaient ne serait-ce que de légers troubles mentaux basculent dans la folie. Aucun super-héros international n'étant disponible pour commenter les événements, je me suis donc adressé à une super équipe locale, les incroyables Herschel et Betty.
Bonjour. Ah, ça tourne? C'est, ça fonctionne? Ok, c'est bon. Eh ben, Betty et moi, on pense que c'est sûrement les rayons.
Et enfin, à Baltimore, une femme dit avoir un canard qui fait des claquettes. Retrouvez-nous après la pause.
12e heure. Il est temps pour eux de faire plus ample connaissance.
À toi.
La pire chose, la plus honteuse que j'ai jamais faite? Non, je peux pas vous le dire. Je peux pas, J'avais 18 ans. J'étais à la fac, j'avais bu. Enfin, au départ, j'avais trop bu. Il y avait des pompes funèbres à côté de mon appartement. Mon petit ami venait de me quitter, c'est pour ça que je m'étais saoulée. Et j'étais excitée, j'avais un peu perdu la tête. Je suis sortie, et je me suis retrouvée devant les pompes funèbres. Je sais pas, j'ai poussé la porte, Je crois que je cherchais un endroit pour faire pipi, vous voyez, les toilettes des femmes. La porte s'est ouverte et j'étais dans la morgue. Il y avait un corps sur la table. Un type jeune. On pouvait voir qu'il avait été, ouais, plutôt beau. Et je me suis dit que j'allais être horrifiée. Mais non. J'étais même plutôt excitée. Je me suis approchée du corps et j'ai commencé à m'amuser avec. Puis je suis montée sur lui. Et j'ai commencé à vraiment y aller. Et tout à coup, il a eu du sang plein la bouche. Alors j'ai penché mon visage vers le sien et j'ai... Je veux pas vous en parler. À personne d'ailleurs. Parfois, quand Gary et moi on fait l'amour, je lui demande de rester bien immobile. Je ferme mes yeux et je fais comme si... Mais ça n'a jamais... jamais été pareil.
Treizième heure. Ils apprennent à se connaître de façon plus intime. John Dee est assis sur le comptoir et les regarde. Il est de nouveau blotti sous son manteau immense, les mains à l'intérieur. Mais elle ne bouge pas. Ses organes génitaux sont flétris et atrophiés depuis longtemps. Mais cela lui plaît.
Pas mal.
14e heure, minuit. Il consulte les oracles. Judy, Kate et Betty incarnent les trois parcs.
Dites-moi mon avenir.
De la poussière, tu es né.
Dans la poussière, tu avances.
À la poussière, tu retourneras.
Dites-moi mon avenir.
Il n'y a pas d'avenir pour toi, John Dee.
C'est un avenir borné par des murs et des gardes et l'accroudeur de la folie.
Puis le fil de ta vie sera coupé, fils de ta mère.
Dites-moi mon avenir.
Tu as volé une partie du pouvoir des rêves.
Tu en prendras la totalité.
Tu broieras de tes mains la vie du seigneur des rêves, John Dee.
Oh, oh, c'est bien. C'est très bien. Il me plaît cet avenir. Fine mouche, habiles petits insectes.
15e heure. Il leur rend leurs esprits. Pour le moment.
Maman. Mon doigt.
Pourquoi? Qu'est-ce qu'on a fait?
Pourquoi nous, bordel? Pourquoi tu nous as fait ça? Tu vas nous tuer!
Pourquoi? Parce que je le peux. Histoire de tuer le temps.
Il retire son manteau.
Éteins les lumières.
Non.
Si.
Si.
16e heure. Jeu de société. Meurtre dans le noir. Yeah. 17e heure, confession et pénitence.
Betty, tu savais que Marsha était au courant pour nous deux? C'est pour ça qu'elle a commencé à boire. Tiens bien le clou.
Où ça?
Sur le dos de ma main.
D'accord.
Marteau.
Tiens.
Je la détestais. Enfin, c'est la seule femme que j'ai jamais aimée. Mais je la détestais.
Marsh enfonce le clou à travers sa main posée sur le comptoir.
Un autre clou. La même chose.
D'accord.
Pour le réveillon, j'ai claqué toute ma paix pour une caisse de vodka. Je l'ai laissée dans notre chambre. Et j'ai quitté la ville une semaine. À mon retour, elle était à l'hôpital. C'est comme si je l'avais tuée. Un autre clou. Et je veux te dire aussi, quand j'étais en tôle, j'ai vu ton fils, le petit Bernie. Il vendait son cul à Gotham et s'est fait choper pour avoir poignardé son bac. Et on pouvait se le payer pour un paquet de clopes.
Je veux pas.
Non, merde.
Tais-toi.
Betty.
Je veux pas entendre ces horreurs.
Je me le suis payé.
18e heure. Il réveille l'animal en eux. Le vieux mâle qu'on appelle Marsh ronge sa patte avant, prise au piège. Il suivait la meute à distance depuis des années, récoltant les miettes. Les femelles, rendues nerveuses par la proximité du conflit, se rapprochent pour se rassurer.
Oh, n'attire pas l'attention.
Chut, bon sang.
Viens pas.
Gary, le chef de la meute,
montre que t'es un vrai mec.
Cherche à provoquer le combat.
Ah ouais.
Il grogne. Le jeune mâle s'avance. Bientôt, les femelles seront toutes à lui.
Oh, je vais t'écraser, gros porc.
Viens.
Le chef de la meute s'arrête, puis bondit. Ses dents sont solides et aiguisées. C'est un bon chef. Il a relevé le défi. Une odeur de sang alourdit l'atmosphère.
Même un homme au cœur dur brillant chaque soir peut devenir un loup quand la conique fleurit et que la lune d'automne brille dans le ciel obscur.
Douce est la victoire, comme le sang.
Aouh ! Oh, 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 oh ! Aouh !
19e heure. Il leur ment.
Pour te rassurer, je mange la moitié verte et toi, la moitié rouge. Faisant confiance à la reine sorcière, Blanche-Neige croqua dans la pomme bien rouge et tomba instantanément comme morte. Oh.
Mais elle n'est pas morte pour de vrai, Docteur D. Hein ?
20e heure. Il est temps de s'amuser.
Même quand de sombres nuages couvrent le ciel, sèche tes larmes, pense fort au soleil.
Donne de la joie à tous autour de toi.
C'est ça. À quoi bon penser que tout va être pire? N'y pense pas trop, garde le sourire. Donne de la joie à tous autour de toi.
Ça suffit maintenant.
21e heure. Il leur enseigne les délices de la foi.
Je veux la voir. Docteur, je vous crois. Je vais voir la gloire.
Judy tient une brochette dans une main et un pic à glace dans l'autre. Elle les tient, pointe tournée vers son visage. Elle se les plante dans les yeux.
Ah ah Seigneur, je la vois. Seigneur Dieu, je vois la gloire.
Ah 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 22e heure. Tout est calme. Le poste télé ne capte plus rien depuis que les techniciens chargés de la diffusion se sont endormis, ou pire, pour rejoindre le monde dans son cauchemar collectif. Dans le diner, la seule personne en vie et éveillée est Docteur D.
Oh, nom de Dieu.
Autour de lui s'étendent les restes d'un carnage. La tête de Betty a été tranchée. Elle pend à son corps, qui tient un grand couperet de boucher dans sa main droite. Des filets de sang se sont coagulés sous les yeux crevés de Judy, assise sans vie, calée contre un banc. D'une main clouée sur le comptoir, pend le bras de marche, tranché juste sous l'épaule. Il gît au sol dans une mare de sang. Kate, tout habillée, chevauche le corps nu de Gary. Tous deux sont morts et couverts des entrailles de Kate. Le docteur D se faufile entre les corps pour regagner son siège. Ouais. 23e heure. L'odeur de la mort emplit le diner. Oh. 24e heure. Le seigneur des rêves entre en titubant dans le diner.
Ah !
À quoi crois-tu donc jouer ?
Ah, bonjour. Je suis heureux de te voir. J'ai commencé à m'ennuyer un peu. Mais tu n'as pas l'air d'une force suffisante pour rendre les choses intéressantes. Je me trompe ?